il y avait aussi un problème d'idolâtrie et de mysticisme religieux. Certains affirmaient la nécessité d'invoquer non seulement le Christ, mais aussi les anges, disaient-ils. Ils recherchaient un type d'expérience mystique provenant du monde surnaturel. Ils déclaraient avoir des connaissances secrètes qui pouvaient être utiles à la vie de l'Église. L'apôtre Paul est obligé de leur dire au verset 18 « Ne vous laissez pas frustrer de votre récompense par quelqu'un qui veut vous humilier dans un culte des anges, qui s'évade dans des visions, qui se gonfle d'orgueil pour rien dans sa mentalité purement humaine. Un tel homme, dit-il, n'est pas en union avec la tête, c'est-à-dire la tête de l'Église, le Seigneur Jésus-Christ. » Les tendances au légalisme, à l'idolâtrie, au mysticisme religieux existent encore de nos jours. Elles ont toujours existé. La preuve, l'apôtre Paul en parle déjà au premier siècle. Alors que la parole de Dieu condamne ces choses, à Dieu seul soit toute la gloire. Voilà le message qui nous vient de la parole de Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée. Tu ne te prosterneras devant elle. Voilà le premier commandement. Il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Voilà ce que le message qui nous vient de la Bible. La parole de Dieu nous interdit de chercher d'autres médiateurs que Jésus-Christ. Elle nous interdit d'adorer d'autres créatures. Elle nous interdit d'adorer des anges. Lorsque l'apôtre Jean se trouvait dans l'île de Patmos, l'ange lui a révélé des choses extraordinaires, magnifiques, que Jean nous présente dans l'Apocalypse. Et Jean s'est prosterné à ses pieds pour l'adorer. Et l'ange du Seigneur lui a dit, « Garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes. Adore Dieu, adore Dieu. » Un ange du Seigneur, un ange de Dieu vous le dira. Mais un ange du diable, un démon, acceptera votre adoration. Il acceptera que vous passiez par lui. Et au lieu de vous conduire à Dieu, il vous conduira à son chef, le diable. Jésus-Christ a appris à ses disciples à s'adresser à Dieu le Père uniquement en son nom et rien d'autre. L'apôtre Paul dénonce un autre problème au sein de cette Église. C'est que certains prenaient aussi l'ascétisme alimentaire en particulier. Ils cherchaient des assurances, je dirais, illusoires dans des abstinences de toutes sortes. Il y avait des aliments considérés impurs chez les Juifs, mais aussi chez les païens. Certains s'abstinaient de viande et de vin, par exemple. Et l'apôtre Paul est obligé de leur dire au verset 20, « Si vous êtes morts avec le Christ, aux forces qui régissent le monde, pourquoi subir des règles comme si votre vie dépendait encore du monde? Ne prends pas ceci, ne goûte pas cela, ne touche pas cela, alors que toutes ces choses sont faites pour disparaître quand on s'en sert. Ce ne sont là que des commandements et des enseignements humains qui ont des airs de sagesse, de religion personnelle, d'humilité, de maîtrise du corps, mais n'ont aucune valeur contre les exigences de la chair. Vouloir compléter le salut que le Seigneur Jésus-Christ nous offre gratuitement par l'observation de ces choses de l'ancienne alliance qui sont devenues finalement caduques et inutiles aujourd'hui, en tout cas depuis que le Christ a accompli l'œuvre du salut à la croix, c'est minimiser, c'est diminuer la grâce du Seigneur envers nous. C'est amoindrir la personne et l'œuvre unique du Christ dans le plan du salut conçu par Dieu depuis l'éternité. Pourtant, aujourd'hui encore, n'est-ce pas? Et c'est là qu'on voit l'actualité de cette lettre. Ces tendances syncrétistes existent encore aujourd'hui. Certains veulent mélanger la foi chrétienne avec des éléments pris ailleurs. Des éléments pris dans d'autres religions et philosophies venues d'ailleurs. Certains continuent d'adresser leurs prières à d'autres médiateurs qu'à Jésus-Christ seul. D'autres ont tendance à faire du christianisme et surtout dans nos églises évangéliques, n'est-ce pas, un code moral légaliste. L'apôtre Paul nous dit ici que tout ce qui amoindrit la personne est l'œuvre de Jésus-Christ, l'œuvre unique de Jésus-Christ. Tout ce qui ôte à Jésus-Christ sa place unique de seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, est contraire à l'évangile du Christ et de ses apôtres. Le chrétien qui a, dans un acte de foi et de confiance, reçu un jour le Christ dans sa vie parce que, par la foi, il a compris le message de l'Évangile, celui qui a confessé sa foi publiquement par le baptême, ce chrétien-là reconnaît la suprématie de Jésus-Christ, sa place unique dans le plan du salut. Ce chrétien reste solidement attaché à son Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Le faux enseignement au sein de cette Église a eu au moins un aspect positif. C'est que cela a permis à l'apôtre Paul de faire, tout au long de cette épître et dans ce passage, dans ce court passage que nous venons de lire, à partir du verset 9, une présentation magnifique de Jésus-Christ et de son œuvre. Il commence par rappeler la nature divine de Jésus-Christ. En lui, dit-il, dans son propre corps, habite la plénitude de la divinité. Quelques versets avant, l'apôtre Paul avait écrit que le Christ est un mystère. Et il est un mystère. Il est un mystère. En lui, dans son propre corps, dit-il, habite la plénitude de la divinité. Et ensuite, au verset 13 à 15, à l'aide de six verbes, il parle de l'œuvre accomplie à la croix. Il a effacé, il a ôté, il a cloué à la croix l'acte ou le billet accusateur, le billet de la dette qui nous accablait, dit l'apôtre Paul. Paul utilise ici toute une série d'images. Ici, particulièrement, il utilise l'image d'une facture ou d'une reconnaissance de dette signée par le débiteur et qu'on barrait d'une croix lorsque la dette était payé. Et il utilise cette image pour parler du pardon que Jésus-Christ, le pardon de nos péchés que Jésus-Christ nous offre grâce à son sacrifice à la croix. Notre dette vis-à-vis de Dieu est effacée. On peut mettre une croix dessus. Elle est effacée à partir du moment où on accepte ce que le Christ a fait pour nous. L'apôtre Paul continue, il a également dépouillé, livré un spectacle, traîné dans son cortège triomphal les puissances de l'univers. Encore là, l'apôtre Paul utilise une image, celle du cortège triomphal que les généraux avaient l'habitude d'organiser lors de grandes victoires, où ils défilaient avec leurs troupes, mais aussi avec les prisonniers, les prisonniers qui étaient exposés à la foule. Paul utilise cette image pour parler du triomphe de la croix. Le triomphe de la croix. Les forces du mal ont été vaincues à la croix. Surtout le troisième jour, lorsque le Christ est sorti vainqueur du tombeau, vivant du tombeau. Voilà pourquoi nous n'avons pas besoin de nous adresser à des anges ou à d'autres intermédiaires, à d'autres créatures, parce qu'en Jésus-Christ, et uniquement en lui, nous avons la plénitude, nous avons tout pleinement en lui. Il est le seul à avoir donné sa vie en rançon pour les péchés de l'humanité, le seul qui peut accorder le pardon des péchés à l'humanité, le seul qui peut, en qui habite la plénitude de la divinité, le seul qui a tout accompli pour le salut de l'humanité. Or, dans cette exhortation, l'apôtre Paul présente un quadruple démarche dans lequel les chrétiens doivent persévérer s'ils veulent vivre une vie chrétienne authentique. Et là, j'ai eu l'aide de notre frère Damien qui nous a préparé un très joli PowerPoint. Alors, je dirais que dans un monde comme le nôtre, où on a tendance à tout mélanger, où le bien et le mal cohabitent, même au sein de nos églises, n'est-ce pas ? Cette démarche, cette quadruple démarche me semble essentielle, fondamentale. Et je voudrais terminer avec ça. L'apôtre Paul utilise ici encore quatre images pour parler de cette quadruple démarche. Tout d'abord, l'image de la marche. Ainsi comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, dit-il. Marchez en lui. L'apôtre Paul utilise souvent le verbe marcher, pas simplement dans cette lettre, mais dans les autres lettres, pour parler de la vie chrétienne, pour parler de notre cheminement de chrétien jour après jour. Et la vie chrétienne, c'est ça. Bon, d'autres textes parlent de la sanctification, le chemin de la sanctification. Mais je trouve très intéressant ce verbe marcher. La vie chrétienne est une marche, est un cheminement. Le premier pas de cette marche commence le jour où nous avons accepté le Christ comme sauveur et Seigneur de nos vies. Et le jour où nous l'avons fait par la foi, parce que nous avons fait confiance à ce message de l'Évangile. Le jour où nous l'avons exprimé par le baptême aussi, publiquement par le baptême, sans avoir honte de plonger dans l'eau. D'ailleurs, il explique au verset 12 la signification du baptême. Enseveli avec lui par le baptême, enseveli avec lui par le baptême, vous avez aussi été réveillés ensemble avec lui. Vous êtes sortis vivants du tombeau par la foi de l'action de Dieu qui l'a réveillé d'entre les morts. Donc une première démarche, vivre en Jésus-Christ, cheminer en lui, avec lui, dans la vie de chaque jour. Être concrètement dans la vie de chaque jour, ce que Dieu a fait en nous, à l'intérieur de nous. Mais comment vivre en lui? Voilà la question. Comment vivre en lui? Comment persévérer dans notre marche chrétienne, jour après jour avec lui? Comment rester attaché à lui? Et à lui seul, tout au long de ces années que le Christ, que le Seigneur nous accorde de vivre ici-bas. Ce n'est pas facile dans cet environnement qui est le nôtre, n'est-ce pas? L'apôtre Paul va nous l'expliquer par trois autres images. Enracinez-vous en lui, dit-il. Donc c'est en enracinant notre vie en Jésus-Christ. Nous avons ici l'image d'un arbre qui grandit et qui continue de plonger ses racines profondément dans la terre pour y puiser non seulement tout ce qu'il lui faut pour se nourrir et pour grandir, n'est-ce pas, pour tenir ferme, mais aussi justement pour tenir lors des tempêtes, lors des intempéries. Sa santé, sa vitalité, sa solidité, sa stabilité dépendent donc de ses racines profondes. Alors nous avons déjà tous vu, n'est-ce pas, lors des tempêtes, que les arbres dont les racines ne sont pas profondes, des arbres dont les racines restent à la surface, ne résistent pas, n'est-ce pas, ne résistent pas lorsque le vent souffle très fort. Celles qui résistent à la tempête sont celles qui vont puiser l'eau dans les nappes phréatiques, celles dont les racines creusent profondément dans la terre, s'enfoncent profondément dans la terre. Elles peuvent bien sûr avoir des branches cassées lorsque les tempêtes soufflent fort, mais elles restent debout car leurs racines sont profondes et leurs racines les tiennent. Cette image de l'arbre et de ses racines me fait penser à beaucoup d'autres textes dans la parole de Dieu qui nous donne aussi cette image de l'arbre, mais surtout à ce verset du psaume 92, verset 13, qui dit « Que les justes poussent comme le palmier, ils s'élèvent comme un cèdre du Liban. Bien plantés dans ta maison éternelle, ils fleurissent sur les parvis de ton temple. Ils seront féconds jusqu'en leur vieillesse et ils resteront pleins de sève et de vigueur. Ils seront féconds jusqu'en leur vieillesse et ils resteront pleins de sève et de vigueur. » Nous sommes donc encouragés par ce passage de l'apôtre Paul à étendre nos racines spirituelles profondément jusqu'à la source d'eau vive qui est le Seigneur Jésus-Christ et ainsi nourrir et fortifier notre vie chrétienne jour après jour. Il est le seul qui peut rendre notre vie chrétienne solide, stable, belle. Il est le seul qui peut nourrir notre foi jour après jour. Avec lui, nous dit la parole de Dieu, nous ne chancellerons pas. Et en plus, nous serons des arbres fertiles qui produisent des fruits pour la gloire de Dieu jusque dans la vieillesse. Une personne qui marche en Jésus-Christ est comme un arbre solidement enraciné. Et pour renforcer cette idée, l'apôtre Paul ajoute deux autres images. Il nous dit que nous devons construire nos vies en Jésus-Christ. Alors, les traductions diffèrent sur le Christ, en Christ. Moi, personnellement, je pense que c'est en lui. Construisez-vous en lui. On passe donc de la forêt au chantier. L'apôtre Paul joue un petit peu avec les images pour nous faire comprendre ce que doit être la vie chrétienne. Alors que dans d'autres passages, il s'agit de construire notre vie sur ce fondement inébranlable qui est le Christ. Et je pense à ces paroles du sermon sur la montagne où Jésus disait que l'homme sage est celui qui construit sa maison sur le roc. Le roc, c'est son enseignement dans le contexte, c'est son enseignement, c'est sa parole. Ici, il s'agit de construire en Jésus-Christ. Cela veut dire que non seulement le fondement sur lequel nous devons construire notre vie, c'est le Christ, mais c'est aussi lui le lien qui fait tenir cette construction qui est notre vie chrétienne. C'est lui le lien qui fait tenir la construction et qui la rend solide. Je ne sais pas, il y a des maçons peut-être parmi nous. On sait que ce qui permet aux briques de tenir entre elles et de les rendre solides ensemble, c'est le ciment, n'est-ce pas? On ne construit pas une maison sans mettre du ciment pour que les briques tiennent entre elles. Or, vous savez que parfois, quand on mélange du ciment de qualité différente, il y a parfois des brèches qui apparaissent très rapidement. Si nous avons cimenté nos vies avec ce ciment qui est le Seigneur Jésus-Christ et son évangile, sa parole, alors je dirais, faisons très attention à ne pas mélanger d'autres ciments de moindre qualité à ce ciment-là qui est le plus fiable, le ciment de l'évangile de Jésus-Christ. Ne mélangeons pas d'autres ciments de moindre qualité afin qu'il n'y ait pas de brèche de brèches dangereuses qui puissent ébranler notre vie chrétienne et nous rendre instables et vulnérables. Pour que nos vies chrétiennes tiennent jusqu'au bout, il leur faut ce ciment qu'est le Seigneur Jésus-Christ et sa parole, son évangile. Soyons donc unis à lui et à lui seul. Il est le seul qui peut nous combler pleinement, nous dit l'apôtre Paul. À nous d'édifier, de construire nos vies en lui et la vie de nos communautés autour de la personne et sur lui. Le Seigneur Jésus nous a donné une autre image, celle du cep et des serments, n'est-ce pas, pour nous dire que nous devons être branchés, connectés à lui continuellement pour recevoir de lui tout ce qu'il nous faut pour notre marche chrétienne de chaque jour. Enfin, l'apôtre Paul nous parle d'affermissement dans la foi. Ainsi comme vous avez reçu le Seigneur Jésus, vivez en lui, enracinez-vous et construisez-vous en lui, affermissez-vous dans la foi, conformément à ce qui vous a été enseigné. L'affermissement dans la foi. Là aussi, l'apôtre Paul utilise un terme technique issu du langage commercial qui décrit la caution qui permettait de conclure un marché. La caution. Il s'agit donc de bien réaliser que la foi de départ, la foi que nous avons embrassée un jour lorsque nous avons accepté le Christ dans notre vie, est une sorte de caution qui anticipe sur toute la suite. Et c'est pour ça que le baptême est quelque chose d'important, parce que ce jour-là est très symbolique dans la vie du chrétien. Ce jour-là nous rappelle que nous avons pris un engagement avec le Seigneur. Nous l'avons accepté et nous l'avons manifesté. C'est une sorte de caution qui est là et qui anticipe sur toute la suite. C'est l'idée donc de s'attacher de plus en plus à la foi telle que le Christ et ses apôtres nous ont transmise et de persévérer dans cet enseignement qu'ils nous ont laissé et que nous avons reçu. Si le point de départ, c'est la réception du Seigneur Jésus-Christ dans notre vie, le cheminement, c'est de marcher en lui, de s'enraciner en lui, de construire nos vies sur lui et en lui, et de nous affermir en lui jour après jour. Et qu'est-ce qui permet aux chrétiens de s'affirmer de plus, de s'affermir de plus en plus dans la foi? C'est, je dirais, la communion avec le Seigneur. La vie chrétienne est une vie de communion avec le Seigneur. C'est l'étude et la méditation de la parole de Dieu qui a été inspirée par le Saint-Esprit. Elle nous a été donnée pour notre édification chrétienne. C'est elle qui nous permet de distinguer le vrai du faux, ce qui est erroné lorsque des faux enseignements sont donnés, par exemple. Luc nous dit que les chrétiens de Bérée reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. La base, c'est la parole de Dieu. La seule manière de vivre une vie chrétienne qui honore et dignifie notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, c'est donc de vivre en lui, de nous enraciner en lui, de construire notre vie en lui, d'affermir notre foi en lui et de nous nourrir jour après jour de sa parole et de son enseignement. Voilà le meilleur antidote contre les mensonges et les contrefaçons qui s'infiltrent dans le christianisme. Et on sait que ces contrefaçons et ces faux enseignements existent. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, nous dit l'apôtre Paul. Soyez enracinés en lui. Construisez votre vie en lui, sur lui. Restez fermes dans la foi, telle qu'on vous l'a enseignée. Soyez débordants d'actions de grâce, dit l'apôtre Paul. J'ai gardé cette dernière phrase. Soyez débordants d'actions de grâce pour le moment de Sainte-Cène que nous allons prendre maintenant. L'apôtre Paul n'oublie pas la reconnaissance qui est très importante dans la vie chrétienne et dans la vie de la communauté. C'est pour ça que nous nous réunissons pour chanter, pour prier, pour dire notre reconnaissance au Seigneur. L'apôtre Paul utilise le mot « eucharistia », le mot grec qui est là et qui est utilisé aussi dans certaines églises. La reconnaissance qui est un critère de bonne santé spirituelle, de bonne santé. Le chrétien qui n'exprime pas sa reconnaissance au Seigneur a un problème dans sa vie peut-être. Le Seigneur nous donne tellement de choses, déjà son salut, n'est-ce pas? La reconnaissance, l'Eucharistie. Nous allons donc maintenant manifester notre Eucharistie en prenant le pain et la coupe en souvenir de ce que Jésus-Christ a fait. Et pour nourrir ce moment où nous allons prendre le pain et le vin, nous allons le prendre au fur et à mesure que nous allons le recevoir. Je vais relire encore ces deux versets, versets 13 et 14, et même le verset 15, pour nourrir ce moment de reconnaissance. Vous étiez des morts, parce que vous aviez péché et que vous n'aviez pas reçu de circoncision. Mais Dieu vous a donné la vie avec le Christ. Il nous a pardonné tous nos péchés. Il a supprimé le biais de la dette qui nous accablait depuis que les commandements pesaient sur nous. Il l'a annulé en le clouant à la croix du Christ. Ainsi, Dieu a dépouillé les puissances de l'univers. Il les a publiquement donné en spectacle et les a traînés dans le cortège triomphal de la croix. Que ces paroles puissent donc nourrir ce moment de partage du pain et de la coupe.